Il y a bien des façons de partir à la rencontre d'un écrivain que l'on aime. Se retrouver chez lui, autour de sa bibliothèque, pour connaître ses auteurs préférés, pour en savoir davantage sur le rapport qu'il entretient au livre, qui est pour lui tout à la fois son outil de travail, sa source d'inspiration et de plaisir, pour découvrir aussi comment il range ses livres, s'il les annote ou pas, s'il est maniaque avec eux, s'il en achète beaucoup, est une manière fort plaisante d'en savoir davantage sur les écrivains. Et c'est la promesse de ce nouveau podcast appelé Bibliophile, aujourd'hui consacré à Bruno Combes, qui vient de publier aux éditions Michel Lafon « La neige ne tombe pas en hiver », son 11e roman, tandis que les éditions J'ai lu publient dans le même temps, en format poche, « Il existera toujours un chemin », paru en 2023.
Bibliophile, découvrez les bibliothèques de vos auteurs préférés.
Auteur de romans à succès, Bruno Combes écrit des histoires qui font du bien. L'écrivain prend plaisir à décrypter, toujours avec bienveillance, nos sentiments, nos émotions, nos joies et nos peines. Ces personnages n'ont pas toujours la vie facile, loin de là. Et à un moment ou un autre, il faudra bien qu'ils se remettent en question et prennent des risques afin d'aller mieux. Valentine, 22 ans, l'héroïne de son dernier roman « La neige ne tombe pas en hiver » est ainsi. Son diplôme de psychologie en poche, elle a quitté sa famille parisienne pour entreprendre un périple de 2 ans à travers le monde. Une décision courageuse et indispensable à son bien-être. Un soir, alors que la neige tombe sans discontinuer à Florac-Trois-Rivières, dans les Cévennes, et qu'elle est perdue, elle trouve refuge dans une maison habitée par une vieille dame inquiétante et versatile. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa vie ne sera plus jamais comme avant après cette rencontre. Dans « Il existera toujours un chemin », il en est de même pour Alexandra, influenceuse à Dubaï, Mathieu, viticulteur en Espagne, et Margot, sous l'emprise d'un mari violent. Tous trois ont pris la fuite et se sont retrouvés par hasard sur le Camino Frances, l'un des chemins qui mène à Compostelle. Bruno Combes croit aux pouvoirs infinis de l'amitié, de l'amour, de la bienveillance et des voyages, car il faut savoir partir pour mieux revenir. Bruno Combes habite tout près de Libourne, dans le sud-ouest de la France. Il a promis de nous faire visiter Saint-Émilion avant de nous inviter à découvrir sa bibliothèque. Allons-y.
Et en fait, de ce côté, vous voyez, les serments sont attachés sur les fils. Donc après, il y a les pousses. Et en fait, là, ils sont en train de... Ben, on appelle ça l'attache. Ils sont en train d'attacher les lignes.
Donc Bruno Combes, là nous sommes dans votre bureau.
Oui.
C'était quoi ? C'était autrefois un garage, c'est ça ?
Alors c'est un garage qui a été effectivement réaménagé. Oui, j'en ai fait mon espace écriture plus lecture.
Très bien. Donc on peut dire que votre bibliothèque est en 3 parties. Il y a 3 meubles différents en tout cas dans cette pièce. Au départ, ce qu'on voit en premier, ce sont en effet des livres anciens dont vous allez me parler bientôt, quelques dictionnaires. Il y a pas mal de poches, mais pas seulement. Il y a des bandes dessinées, vos livres tout en haut.
Bien sûr.
Bien sûr. Petit format et grand format, puisque je pense que tous vos livres ont été publiés en poche.
Oui, en brochet, en poche également.
Très bien. Et après, nous avons alors des auteurs. Alors, quand vous aimez un auteur, vous l'aimez, hein, j'ai l'impression. Beaucoup de Françoise Bourdin, Anna Gavalda, beaucoup d'Anna Gavalda, Michel Bussy, Christian Signol. Comment rangez-vous vos livres ? Par ordre alphabétique ? Comment sont-ils ?
Alors, en fait, j'ai un classement à trois niveaux. Oui, c'est ça, 3 niveaux. En fait, j'ai partagé mes livres entre ce que j'appelle, bien qu'il n'y ait pas que des classiques, mais j'appelle ça une classification de livres plus anciens, les auteurs dits classiques. Il y a du Jules Verne, il y a du Zola, il y a du Hugo, en fait, voilà. J'ai ce rangement-là. Après, on est plus dans quelque chose de plus contemporain, en fait, en haut, tout ce qui est un peu plus contemporain, avec un espace uniquement réservé à ce que à mes coups de cœur de toujours ou des coups de cœur récents dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et après j'ai le rayon un petit peu BD, même s'ils ne sont pas tous là.
Pas mal d'Astérix,
oui. Il doit y avoir également les Dalton également, mais ils ne sont pas tous là. Ils ne sont pas tous ici. J'ai effectivement après par auteur un petit peu récurrent, oui, parce que c'est des auteurs que j'aime bien, donc je les ai pas tous, mais j'en ai beaucoup dans chaque collection.
Alors citez-nous en quand même quelques-uns. Je parlais de
oui, alors
Françoise
il y a
Bourdin.
Françoise Bourdin. En fait, ce sont des livres comme ceux que vous avez ici en dessous. C'est uniquement des Daniel Steele en poche. C'est des livres en fait qui c'est ma femme au départ qui lisait ces livres. Je me suis mis à les lire et à les lire. Et en fait, c'est des livres qui me détendent. Également comme Christian Signol. Christian Signol est un auteur que j'aime bien, qui est classé comme auteur de terroir et qui raconte souvent des histoires de son terroir, donc là, autour de la Corrèze, autour de Brive. C'est des lectures qui, pour moi, sont souvent synonymes de détente dans des phases d'écriture ou dans des phases comme ça. C'est des histoires qui me détendent. Et dernière classification, donc vous en parliez à l'instant, au début de notre entretien, en fait, il y a... J'allais dire un petit peu de tout, des sujets qui m'intéressent mais qui n'ont rien à voir avec de la littérature puisqu'on est sur quelque chose de l'architecture paysanne.
Les truffes.
Les truffes, qui est une de mes passions puisque je possède une plantation de truffes en Lot-et-Garonne et donc je me suis beaucoup intéressé au sujet.
Donc vous ramassez des truffes?
Pas encore. Ils vont bientôt produire. et à côté de ce panel là plus, il y a effectivement des livres. Alors c'est des livres qui me tiennent entre guillemets le plus à cœur parce que c'est des livres issus de mes parents, de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. Et également il y a un livre auquel je tiens beaucoup. Pardon. C'est celui-ci. Qui est où j'ai eu les pires difficultés à trouver. Celui-ci, c'est un des seuls livres qu'a écrit mon ancienne éditrice, Huguette Mort.
La cinquantaine au masculin, Huguette Mort.
C'est très amusant, ça lui ressemble beaucoup.
Et ça parlait de quoi? C'est un roman?
En fait, c'est un roman avec tout, oui, tout l'humour qu'elle possédait et qui, sous des aspects parfois un peu amusants, elle traite de toute la problématique de la cinquantaine au masculin, avec le côté ce que se posent les hommes comme question à la cinquantaine. Mais c'est traité de façon, et puis bon, petit attachement personnel, parce qu'on a fait quand même 9 livres ensemble. Donc c'est pour ça qu'il est classé dans les...
C'est publié chez qui, ce livre?
Alors, j'ai eu beaucoup... Alors, ça avait été à l'époque publié chez Calman Lévy, mais je crois que c'est assez ancien, puisqu'on est encore en franc, effectivement.
Ouais.
J'avais réussi à l'avoir en livre d'occasion. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un livre qui est classé façon que les livres qui sont issus de ma famille, quoi, en fait.
J'imagine qu'on ne le trouve plus, ce livre, ou alors vraiment d'occasion, en cherchant.
J'ai eu beaucoup de mal. Je crois que je l'ai. Si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai trouvé en occasion sur des sites de vente, mais il n'est plus du tout, bien évidemment, publié ni imprimé.
D'accord.
Mais j'y tiens beaucoup.
Et alors les livres anciens, là?
Alors les livres anciens, il y a des livres soit d'enseignement, soit des romans. Il y en a certains qui appartenaient à ma grand-mère, d'autres à mes parents, d'autres à mon arrière-grand-mère. Vous voyez, par exemple, ça, c'est le livre de première année de musique, solfège et chant de ma grand-mère. Donc, ça doit dater de 1920 ou comme ça. Donc, il y en a pas mal. Et un en particulier, qui est assez amusant, c'est un petit, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, un petit recueil qui s'intitule « Pour dire entre jeunes filles », avec des textes qui, je pense, maintenant auraient quelques petits soucis pour être publiés. Mais bon, c'est
Donnez-nous quelques titres.
Il y a le ballon de bébé, montgolfière pour jeune fille. Bonnet de Sainte-Catherine, le fameux bonnet de Sainte-Catherine, oui.
des choses... c'est très léger, en fait. Lettre à ma poupée, voilà, monologue pour une fillette. C'est très amusant, c'est un oiseau dans la classe, c'est des... Je cherche l'année à laquelle... Vous voyez, c'était un livre à 50 centimes à l'époque. Donc c'est très ancien.
Vous gardez tous vos livres ou ils circulent ?
Ils circulent. Alors je sais que beaucoup de personnes font beaucoup tourner leurs livres. Je suis pas un adepte de beaucoup. Ou alors il faut que ce soit quelqu'un en qui j'ai véritablement confiance, parce que le livre, ça s'abîme. Les livres, chacun les traite à sa façon. Je n'aime pas les livres abîmés, donc oui, j'ai un petit peu de mal quelquefois à prêter mes livres.
Mais ici, votre bibliothèque est quasiment remplie. Votre bureau n'est pas très grand, donc vous arrivez à garder tous vos livres ou ils vont ailleurs après ?
Alors non, il y en a qui sont également de l'autre côté, non, pas dans mon bureau, donc dans la maison, véritablement. Et il y en a d'autres qui sont dans une maison qui appartient à la famille, là, en Lot-et-Garonne. Il y a aussi quelques livres là-bas, parce que je vais finir par ne plus pouvoir respirer, effectivement, dans le bureau, entre l'écriture, qui est tout ce qui est consacré à l'écriture, et dans l'autre meuble, et dans les bureaux, le bureau. Et les livres sont ici, oui. Mais la plupart, disons que mes livres préférés sont ici. Le reste, c'est je fais des sélections, en fait. Je fais des sélections, oui. Il va falloir d'ailleurs bientôt que je fasse une nouvelle sélection.
Très bien. Et là, vous me parliez de vos livres coup de cœur qui sont donc sur une étagère derrière votre bureau.
Oui,
où se trouvent ? Alors, citez-moi vos auteurs coup de cœur, vos auteurs préférés.
Alors, même si j'ai des auteurs récurrents, comme je disais tout à l'heure, Signol, Bourdin, enfin bon.
Norek aussi, Olivier Norek, qu'on n'a pas
cité.
Oui,
Norek, là, il y a un côté aussi, amitié, puisque c'est un auteur de la même maison que moi. Et j'apprécie beaucoup le personnage et ses livres. Donc voilà. Alors en livre, coup de cœur. J'ai un auteur coup de cœur. C'est Anna Gavalda. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ses livres ici. Il y en a quand même un qui ressort au milieu des autres. C'est Je l'aimais. Je trouve que c'est une petite merveille. Je pense que l'écriture d'Anna Gavalda... résonne en moi. En fait, elle écrit très... c'est très émotionnel, son écriture, et je pense que c'est ça qui fait que je suis beaucoup attiré par son écriture. Mais toujours, ça a été vraiment... pour moi, c'est quelqu'un qui a... J'adore son écriture. Donc c'est pour ça que tous ses livres sont dans le casier coup de cœur, même si j'en ai apprécié certains plus que d'autres. Et après, il y a d'autres livres un petit peu plus...
Jérôme Collin
que j'ai découvert assez récemment. J'ai l'habitude, quand je vais dans une librairie, de bien évidemment de me fournir en classique quand des nouveautés sortent, bien évidemment. Mais j'aime bien découvrir des premiers romans ou des auteurs que je connais pas du tout. Et effectivement, Jérôme Collin, je l'ai découvert, mais alors complètement par hasard, c'est Les Dragons, et j'ai été vraiment émerveillé par son écriture, aussi une écriture très émotionnelle. C'est très émotionnel. Alors un sujet, bien évidemment, c'est peut-être ça aussi qui m'a interpellé. C'est un sujet qui est un petit peu particulier, puisqu'on rentre dans le monde de la psychiatrie des enfants. Donc pas un sujet facile, mais c'est très très beau, une très très belle écriture. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cet auteur.
Oui, je confirme, c'est un très bon roman. Les Dragons, et c'est aux éditions Guillaume Allary.
Tout à fait. J'ai lu ces deux autres. J'ai aussi beaucoup apprécié Le Champ de bataille et Éviter les péages. Éviter les péages, j'ai bien aimé. Le Champ de bataille, j'ai pas vraiment flashé. Ça aurait été le premier que... Si ça avait été le premier que j'avais lu, peut-être que je n'aurais pas lu les... Enfin bon, peu importe. Mais l'auteur m'a vraiment beaucoup plu avec Les Dragons.
Ouais. Vous achetez beaucoup de livres ?
J'achète... Ça dépend des périodes. Puisque quand je suis en période d'écriture, c'est beaucoup de mal, en fait, à me plonger dans des nouveautés. Alors si, quand je suis en période d'écriture, par exemple, je vais prendre des livres, ce que j'appelle mes livres un petit peu détente, même si c'est pas peut-être très sympa pour les auteurs. Mais parce qu'en fait, c'est des livres qui me détendent. Christian Signol, Daniel Steele, Françoise Bourdin,
Malheureusement, il n'y aura pas de nouveau.
Non.
Et après, quand je suis en période, où, je ne sais pas, dans une phase d'écriture intense, je me plonge dans des livres un petit peu plus... que je connais pas du tout. Ou alors des auteurs que je connais, comme Olivier Bourdeau, et puis qui sortent des nouveautés. Et récemment, le dernier coup de cœur, là, c'est son dernier livre, Développement personnel, que j'ai terminé d'ailleurs il y a quelques jours. Voilà. Mais en période d'écriture, je ne lis pas tant que ça. Ça me pollue un petit peu au niveau de l'écriture.
Est-ce que vous annotez vos livres ?
Non.
Non.
Sur le livre, non.
Non, on voit qu'ils sont très bien tenus, vos livres.
Non.
Vous êtes un peu maniaque avec eux. On voit qu'ils ne sont pas du tout cornés. Ils sont...
Alors, je suis... Je dirais que je suis maniaque, mais j'ai un défaut que ma femme me fait remarquer à chaque fois. Quand je m'arrête au bout de, je sais pas moi, je m'arrête parce que j'ai autre chose à faire, je plie le coin de la... et ça c'est quelque chose que je ne supporte pas, mais ça c'est quelque chose que je fais.
On ne le voit pas beaucoup en
fait.
Non,
on ne le voit pas beaucoup, mais je sais que je le... Peut-être qu'on le remarque sur le dernier que j'ai lu, je ne sais pas. Non, les livres, j'essaie d'y faire attention, oui, tout à fait.
Vous allez toujours à la même librairie quand vous achetez vos livres ? Ou vous changez ?
Non,
vous êtes
ça dépend.
Fidèle à une
alors,
librairie.
C'est vrai qu'ici, je vais souvent à la librairie, où j'ai l'habitude d'aller, ou alors quelquefois dans des grandes enseignes, bien évidemment. Mais non, je n'ai pas une librairie en particulier. Non, non.
Dans La neige ne tombe pas en hiver, l'un de vos personnages, qui s'appelle Constance, qui est une dame âgée, a une bibliothèque, ou au moins son mari avait une bibliothèque, aimée. Et vous dites de cette bibliothèque qu'elle est habitée. C'est quoi pour vous une bibliothèque habitée ?
Une bibliothèque habitée, en fait, je crois que chaque roman, pour chaque auteur d'ailleurs, représente un morceau de sa vie. En fait, il y a mis, même si les livres ne sont pas autobiographiques, même si ce sont des fictions, en fait, on écrit certaines choses parce qu'on en a vécu d'autres. Et je trouve que tous les livres... Il respire un petit peu ça. Par exemple, nous parlions à l'instant de Jérôme Collin, avec ce sujet difficile de la psychiatrie infantile. Il raconte qu'il a visité beaucoup d'unités psychiatriques enfants. Et ce livre, il y a quelque chose qui ressort de très intense, en fait. Et c'est ça que je trouve que chaque livre, en fait, respire une histoire, respire une émotion, respire quoi que l'auteur ait voulu dire, quel que soit le sujet. Donc c'est en ça que je veux dire qu'une librairie, elle est habitée de... C'est un choup d'émotions, en fait, une bibliothèque.
Et quand vous écrivez vous-même, quand vous êtes en période d'écriture, est-ce que vous lisez des livres qui vont vous renseigner sur certains sujets ? Je pense par exemple à « Il existera toujours un chemin » qui vient de paraître en poche, qui parle beaucoup de Compostelle. Est-ce que vous avez lu des livres autour du chemin de Compostelle ou pas ?
Alors oui, alors
par exemple.
D'ailleurs c'est un sujet un petit peu particulier parce que le chemin de Compostelle, avant d'écrire ce livre, je devais en faire une partie. Je devais me lancer sur le fameux Camino Frances qui est décrit dans le livre, mais malheureusement l'événement familial a fait que ça n'a pas pu se faire. Je me suis beaucoup renseigné. Alors des amis qui avaient fait le chemin de Compostelle, il doit y avoir par ici d'ailleurs. Certains livres également, ils doivent être par ici, sur le chemin de Compostelle, derrière le livre du Guette. Oui, je me suis beaucoup renseigné.
Voilà.
Parce que j'ai un...
Donc vous gardez ces livres-là aussi dans votre bibliothèque qui vous ont servi à nourrir votre écriture pendant vos romans.
Je trouve que c'est très important, justement. Ce que je ne supporte pas quand je lis un livre, c'est des imprécisions, que ce soit géographique ou autre chose, et je m'attelle vraiment à... Comme je n'avais pas pu le faire, je pouvais pas me nourrir de cette ambiance, en fait, que j'aurais vécue. Donc je suis allé la chercher ailleurs.
Vous avez un petit espace aussi dédié au dictionnaire, Bruno Combes. 4 dictionnaires exactement.
Oui.
Vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors là, en fait, on est plus sur le côté écriture et pas sur le côté lecture, puisque ce sont mes supports qui m'aident dans l'écriture. En fait, il y a 4, il y a un dictionnaire... classique, un dictionnaire des synonymes dont je me sers pas mal, surtout en fin d'écriture, bien évidemment, quand on fait la chasse aux répétitions. Le dictionnaire des synonymes et des contraires, mais celui dont je me sers le plus, c'est le fameux Thésaurus, qui est le dictionnaire des analogies où on peut trouver pas mal de choses intéressantes pour reformuler les choses, pour améliorer le texte. C'est vraiment l'espace écriture où je vais piocher des informations en fait, pour améliorer le texte.
Vous les utilisez beaucoup ?
Oui. Ouais. Alors, pas au départ, bien évidemment, je ne me perturbe pas. Au départ, dans l'écriture, dans le premier jet, je ne me perturbe pas de me poser la question, est-ce qu'il y a une répétition dans cette page, ou d'autres problèmes. Je le fais au niveau de la première relecture, en fait, quand je relis mon manuscrit terminé pour la première fois, je commence à aller pêcher des informations dans ces quatre dictionnaires différents. Oui.
Vous mettez combien de temps pour écrire un roman ?
Alors, je mets environ... l'écriture débute au mois de mars, on va dire, pour se terminer. Le premier jet, le manuscrit primaire, que je vais donc après envoyer à mon éditrice pour se terminer fin octobre, début novembre. Donc, un temps relativement long. Je n'écris pas en continu sur une journée. J'écris le matin assez tôt. Je démarre vers 6h jusqu'à 11h, 11h30. C'est là où je suis le plus productif. Et après, le reste du temps n'est pas consacré à l'écriture en elle-même. Elle est consacrée à de la correction, à de la relecture, à d'autres travaux sur la promotion ou autre chose, mais pas l'écriture en elle-même.
Oui, vous écrivez vraiment entre 6h et 11h30.
Tout à fait. Au départ, les premiers romans, j'hésitais beaucoup. Je commençais le matin, je poursuivais l'après-midi, je jetais des feuilles à n'en plus finir. J'ai même essayé d'écrire le soir quand tout le monde était couché. J'ai vite abandonné. Non, mon rythme, c'est d'écriture la plus efficace, c'est tôt le matin.
D'accord. Et j'ai oublié de parler de la... Il y a aussi des livres, sélection du livre, au-dessus de votre bibliothèque, qui sont un petit peu cachés par des photos de famille, je suppose.
Oui, voilà. Oui, c'est Antoine, le petit-fils.
Alors, c'est vous avec votre petit-fils Antoine. Et donc, c'est quoi ces livres ?
En fait, ça, c'est des livres qui appartenaient... une fois de plus, on revient à la famille. Hein. C'est des livres qui appartenaient à ma mère. C'est la collection, oui, sélection du livre. Avec, alors, c'est soit des fois des romans entiers, soit ce sont des... Je sais qu'il y a des fois des résumés. Il y a des résumés, alors c'est peut-être, ils ne sont peut-être pas ici. Mais en fait, vous avez dans le même livre, il y a plusieurs livres. Alors, ils sont également illustrés.
Ah oui, d'accord.
Alors, par contre, je ne les ai pas tous lus, mais je les ai tous récupérés. Ils appartenaient à ma mère, ces livres.
Très bien. Alors, je vais encore décrire un petit peu votre bibliothèque, si ça ne vous embête pas. Il y a un ours en peluche avec des photos aussi de famille au milieu.
Oui.
Il y a
un dingo.
Un dingo qui est là. Des photos donc avec Antoine, votre petit-fils. Et sur un mur, il y a toutes vos couvertures. C'est toutes vos couvertures de livres ?
C'est toutes mes couvertures petit
grand
format et grand format.
Les deux, c'est ça. Les deux.
Oui, il y a les deux. Il y a les deux. On est sur. J'ai d'ailleurs mis récemment à jour, puisque les deux prochaines sorties de La Neige ne tombe pas en hiver, il existera toujours en chemin. Mais les nouvelles couvertures y sont. J'ai également, parce que j'y tenais, il y a les couvertures de mes deux premiers romans, donc qui sont sortis en auto-édition, les deux tomes du Secret de la Montagne Noire, en fait, avec après les couvertures qui sont ressorties. En livre édité. Mais oui, il y a toutes les couvertures de mes livres, oui, tout à fait.
Très bien. La neige ne tombe pas en hiver, ni... Ah si, elle est là au milieu. Absolument, elle est là au milieu. D'accord.
Et avec un petit plaisir personnel.
Ah oui.
Dans ce livre, La part des anges, je fais référence, puisque tous mes livres, tous les chapitres de mes livres commencent par des petites introductions que j'aime bien écrire. Et j'avais choisi pour un chapitre de La part des anges, un extrait d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. Et j'avais dit, tiens, quand même, par respect pour l'auteur des paroles, je vais lui envoyer le livre. Je ne pensais pas recevoir de réponse. Il m'avait répondu une très, très gentille réponse que j'ai conservée avec la couverture du livre.
Très gentil. Donc, il vous a envoyé ce mot, en effet, Jean-Jacques Goldman, le 21 août 2020, c'est
oui,
ça ?
Tout à fait,
c'est
oui.
Ça. Oui, un mot extrêmement sympathique. Et à gauche de votre bureau, il y a un tableau blanc où dessus vous avez écrit
oui. «
L'amour ne veut pas la durée, il veut l'instant et l'éternité. » Nietzsche. Alors, c'est toujours la même citation qui est là,
non.
Ou vous changez régulièrement ?
Non, en fait, ça, vous voyez, je ne me souvenais pas que c'était écrit. Normalement, le
tableau aurait dû être blanc, mais vous faites bien d'en parler. En fait, là, j'ai donc terminé mon 11e roman. Il y en aura un 12e. Et ce que je fais toujours avant d'écrire un livre, j'essaie de me nourrir d'une idée. Je sais sur quoi je veux écrire, mais j'essaie de trouver une idée. Quelquefois, ça va être une citation, quelquefois, ça va être moi qui vais écrire une idée. Et là, j'ai lu cette citation, je ne sais plus où, et je me suis dit, elle résume assez bien, sans doute, l'histoire du prochain roman. Donc, cette citation va peut-être rester là des mois, mais elle est là. Elle est à côté de moi, je la lis, je la relis, je la décortique, mais voilà.
Oui, elle va vous accompagner durant toute la durée de l'écriture du prochain roman.
Tout à fait, oui. Oui.
D'accord.
Oui.
Et j'aimerais bien juste revenir deux minutes sur les classiques, en fait, en bas, qui sont essentiellement des poches, voire que des poches. Donc, vous avez du Balzac.
Alors là, ils sont normalement par...
Ils sont par ordre...
Oula, pas celui-ci, il y a une erreur.
Enfin, à peu près, à peu près.
Ils sont par ordre alphabétique.
D'accord.
Oui, on a un petit peu tous les... Il y a du Corneille,
grand
Dumas,
ouais.
Gautier, Hugo. Il y a pas mal d'Hugo.
Ouais.
Celui-ci...
Molière, je vois. Beaucoup de Molière.
Oui, j'en ai même certains en double. Parce que les doubles sont derrière. Le fameux Cyrano de Bergerac, du Stendhal, et on finit par Zola.
Et ça vous arrive de les relire, les classiques ?
Ça m'arrive. Alors, je ne les relis pas en entier, mais ça m'arrive, oui, quand j'en entends parler sur une radio ou à la télé ou comme ça, j'ai dit, tiens, je le reprends et puis je relis quelques lignes. Je suis souvent très surpris parce que on voit que les écritures ont... La façon d'écrire a énormément évolué, en fait.
Vous avez quand même le mariage de Figaro en 3 exemplaires.
Oui, je sais. Il y a des doubles.
Chez des éditeurs différents.
Ici, il y a d'autres doubles parce qu'il y a des livres qui ont été récupérés. Il y a des livres qui m'ont été offerts également. Mais vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait que je fasse du tri, il va falloir que j'en fasse un peu plus.
Dans La neige ne tombe pas en hiver, il y a aussi Julien qui, je crois, offre un livre à Valentine ou lui prête un livre qui est Le vieil homme et la mère d'Hemingway, que je n'ai pas vu là, mais enfin qui doit être.
Alors je suis étonné, il devrait être ici.
Il devrait être...
Ah non, il est. Pourquoi n'est-il pas là ? Il devrait être dans les livres préférés. Ah, mais il est ici, voilà.
Ah, il est là. Il est ici, voilà, je ne l'avais pas vu.
Pourquoi, il est ici.
Pourquoi avez-vous choisi.
Au départ, dans La neige ne tombe pas en hiver, il ne devait pas y avoir de référence à Ernest Hemingway ni au vieil homme et la mère. Mais j'ai, à mesure que l'écriture avançait, puisqu'il fallait faire référence à... Il y avait la bibliothèque. La bibliothèque est très importante. Les livres sont très importants dans le livre.
Oui.
Quand j'ai écrit, je ne me souviens plus exactement où j'en étais dans l'écriture, mais j'ai pensé de suite à ce livre avec la référence à ce que souhaitait laisser, alors je ne vais pas raconter le livre bien évidemment, parce que souhaitait laisser Constance comme empreinte, je trouvais que j'ai eu un flash à ce moment-là et j'ai pensé au livre d'Ernest Hemingway, à ce pauvre pêcheur, pourquoi pauvre d'ailleurs, à ce pêcheur qui recommence 84 fois la même chose pour arriver enfin à son but. Quoi. J'ai trouvé qu'il y avait un parallèle qui était intéressant à traiter pour une des deux héroïnes qui est une ancienne libraire, et c'était très 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 sympathique de faire ce parallèle entre les deux histoires. Oui,
tout à fait. Il y a, quand on rentre juste sur la gauche, Bruno Combes, alors une photo avec dessus, à côté, marqué. Il y a des plumes, des vraies plumes sous le cadre. J'adore l'écriture et la lecture. Alors, quand je serai grande, j'écrirai des romans et des bonnes nouvelles. Où avez-vous trouvé ça ?
Oui, ça, c'est...
Et on voit, pardon, je vous coupe. On voit une petite fille qui est devant une photo en noir et blanc, une petite fille qui est devant une machine à écrire.
C'est des petits tableaux qui existent. Alors j'avais trouvé ça dans une boutique de souvenirs, je ne sais plus où. Et il y avait des petits tableaux comme ça pour un petit peu tous les métiers.
Et là, c'était écrivain. D'accord. Et j'ai trouvé, sympathique. En plus, je crois, si je me souviens bien, il y a des fautes d'orthographe qui sont faites exprès. Ah non, pas dans celui-ci, parce qu'il y avait pour d'autres métiers. J'avais offert le même style de tableau à ma fille qui est professeure de danse et c'était pareil. Il y avait des fautes d'orthographe corrigées, comme si c'était écrit à l'ancienne, en fait.
Et parlez-nous de vos petites figurines, là.
Ah, mes petites figurines, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui... Dès qu'il fait soleil, vous voyez, il se met à bouger.
Oui.
Et ça m'accompagne. Des fois, il y a le tic, 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 tic qui me berce. Quelque chose d'important aussi, ça. Deux choses. D'abord, ça. À la fin de l'année prochaine, normalement, j'aurai tous les cailloux avec la couverture de mes livres peinte dessus, en fait. C'est une lectrice... On avait fait un pari à la foire du livre de Brive. On m'avait dit est-ce que ça vous intéresse, et je crois que c'était une blague d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse d'avoir aux couvertures de livres sur des cailloux. J'avais cru
sur des galets, ouais.
Sur des galets. Hein? J'avais cru à une blague, et puis l'année d'après, cette année, à la dernière foire du livre de Brive, elle m'a amené celui-ci. Et à la fin de l'année, elle doit m'amener la couverture sur des galets de tous mes grands formats. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil, et puis j'aime bien, parce que c'est aussi la relation qu'il peut y avoir entre les lecteurs et les auteurs.
Je rappelle les deux titres de vos romans qui viennent de paraître, l'un en grand format et l'autre en poche. Celui en grand format aux éditions Michel Lafon, « La neige ne tombe pas en hiver », donc de Bruno Combes, et en format poche chez J'ai lu, « Il existera toujours un chemin ». Merci beaucoup, Bruno Combes, de nous avoir reçus dans votre bureau au milieu de vos livres.
Merci à vous.